Bonjour à vous tous et à vous toutes, bien-aimés du Seigneur. Alors, si vous permettez, on va encore parler d'amour cet après-midi, mais je pense que ça ne fera, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr, c'est que ça ne fera de mal à personne. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Trois choses importantes et essentielles. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons eu l'occasion de lire quelques versets plus approfondis dans 1 Corinthiens 13 et nous avons vu l'importance d'avoir ce sentiment, d'avoir cette qualité de sentiment au fond de nous, c'est l'amour. Alors j'aimerais cet après-midi continuer sur ce thème et j'aimerais aborder trois définitions parce que autour de ce mot amour on retrouve le mot charité comme ici écrit, on retrouve le mot compassion et on retrouve le mot pitié. Alors j'ai sauté sur mon dictionnaire pour voir un peu quelle était la définition française de ces trois mots. Alors, commençons par charité. Charité, il est écrit dans le dictionnaire « amour de Dieu et du prochain ». Une des trois vertus théologales. C'est aussi « bonté, indulgence ». Entre parenthèses, c'est « ayez la charité, ayez l'amour, de lui pardonner ». Et puis, c'est associé aussi à l'aumône, faire la charité. C'est une variante. L'origine latine, c'est carus, C-A-R-U-S, qui signifie chair. Il est cher à mon cœur. Et puis, la compassion. La compassion, c'est un sentiment de sympathie, de la pitié pour les maux d'autrui, au sens figuré, c'est faire compassion, inspirer une pitié, mais souvent méprisante. On commence à s'éloigner un petit peu du sentiment d'amour. Et puis, troisième définition, la pitié. Donc là, c'est un sentiment de sympathie pour les souffrances d'autrui. Prendre en pitié, c'est éprouver ce sentiment pour quelqu'un. Mais la pitié aussi, ça peut être associé à un sentiment de dédain. Chose propre à exciter le mépris. Ah, quelle pitié! Comme quelque chose de méprisable. L'origine latine, c'est pietas, qui signifie pitié, tout simplement. Alors, si vous avez bien suivi et retenu ces trois définitions, charité, compassion, pitié, mais dans des registres légèrement différents, jusqu'à très éloignés. On peut voir quelqu'un sans le regarder. Mon regard balaye l'assemblée, je vous vois, mais sans vous regarder, sans sentiment, sans rien éprouver. La foule, on croise le regard de la foule, mais il n'y a rien. C'est juste une vision. Mais quand on regarde quelqu'un, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'éprouve pour cette personne? Quel est le sentiment qui s'en dégage? Dans l'attitude de Jésus, dans les exemples qu'il nous a laissés, dans l'expression de ses sentiments, il est question de charité, d'un sentiment d'amour et de compassion. Mais Jésus n'a jamais eu pitié dans le sens de dédain, dans le sens d'obligé d'eux, dans le sens de méprisable. Alors moi, je me dis, moi, peut-être, je ne voudrais aimer que quelqu'un qui m'aime. C'est un raccourci. Mais c'est peut-être trop facile. Dieu n'a-t-il pas dit « Aimez vos ennemis, aimez sans rien attendre en retour, tel qu'il est. » Avec ses qualités, bien sûr, mais surtout avec ses défauts. La connaissance que nous avons de l'amour de Dieu ne passe pas seulement par la manifestation de son amour envers nous, mais par l'exhortation à l'amour fraternel. Alors, je vous invite à lire 1 Jean, chapitre 4, les versets 16 à 21. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Pardon. Et Dieu demeure en lui, dans la réciprocité. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et là, on retrouve des mots que l'on a lus déjà dans 1 Corinthiens 13. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Moi, j'ai connu des assemblées où il y avait des divisions entre frères. Et puis, comment parler d'amour dans ce genre de situation? Fermons la parenthèse. Nous avons vu que Dieu, étant amour, a accompli en nous une œuvre parfaite en ce qu'il nous a laissé. Jésus n'a pas simplement montré l'amour, l'amour parfait. Il nous l'a aussi laissé. Alors, est-ce que moi je suis capable d'aimer? Oui, 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 moi qui ai reçu Christ en moi, je suis capable d'aimer. Alors, Dieu nous a remplis d'amour. Alors ça, nous devons en être conscients, nous devons le savoir. Enfin, j'espère que tous vous le savez. Parce que vous avez fait le petit test, hein, de vous dire « je t'aime dans le nom du Seigneur », n'est-ce pas? Malheureusement, le temps qui passe érode cet amour, le voile, l'appauvrit. C'est comme si on oubliait de... On a acheté une belle plante, alors au début, on va bien l'arroser quand il faut, on va le mettre, le petit engrais quand il faut. Et puis au fur et à mesure que les jours, les mois et peut-être les années passent, on a raté quelques arrosages, on a complètement oublié de mettre de l'engrais. Et puis cette belle plante qui faisait notre joie au départ, elle commence à s'appauvrir. Elle commence à baisser de la tête. Après on dit, regarde, avec tout le soin que je t'apporte, regarde-moi la tête que tu as maintenant, mais ce que j'ai oublié, c'est que moi, je ne l'ai pas entretenue. Je dis ça parce que j'aime beaucoup les plantes et ça m'arrive aussi de les voir s'appauvrir parce que je me suis rendu compte que j'avais raté quelque chose. Alors là, ce n'est pas une petite histoire que je vais vous raconter, c'est une illustration. Le titre, c'est « Une source intarissable et un puits ». Imaginons-nous près d'un puits. Si possible, dans un endroit sec autour de nous. Il y a un puits où les gens se rassemblent. On puise l'eau dans le puits et on s'aperçoit qu'il se remplit aussitôt. Parce qu'il est alimenté. Le puits n'est jamais à sec. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Mais si l'on ne puise pas d'eau, que se passe-t-il? L'eau s'évapore. Et puis, elle croupit. C'est-à-dire qu'après, elle n'est plus consommable. Et la source, puisqu'elle n'est plus sollicitée, eh bien, elle va chercher une autre issue pour sortir et aller voir ailleurs. Et peu à peu, eh bien, ce puits va se tarir. Alors, on peut puiser cette eau pour nous-mêmes, mais on peut aussi la puiser pour donner aux autres. Vous voyez, c'est une petite illustration, mais je pense que vous avez compris son sens. Chers frères et sœurs, expérimentons cet amour qui ne change pas et qui inonde nos cœurs. Encore faut-il le déverser. Dieu nous a laissé ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Expérimenter l'amour de Dieu, c'est connaître la plénitude. Pas à moitié vide, ni à moitié plein, mais plein, tout simplement. Dans Éphésiens, chapitre 3, et à partir du verset 17, nous pouvons lire ceci, « En sorte que Christ habite dans nos cœurs, ou dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, pleins, jusqu'à son maximum, jusqu'à la plénitude. Tout à l'heure, avec Kate, on disait, tiens, comment tu es venu aujourd'hui? Parce qu'avec le carnaval ou le défilé, donc j'ai pris ma petite précaution, parce que je n'avais pas capté que c'était aujourd'hui, j'ai entendu les informations. Hein. J'ai dit, ah, il faut que je prenne les transports, sinon, la galère, je vais être en retard. Et autour de moi, il y avait un certain nombre de personnes dans le train, donc je les ai pas simplement balayés du regard, mais je les ai regardés. Et souvent, ce qui nous choque, c'est de voir qu'il n'y a pas de sourire aux lèvres, il n'y a pas de joie dans le regard, bien souvent. Et puis si une place se libère, hop, c'est le premier qui saute dessus, même s'il y a une vieille dame à côté ou une dame enceinte ou avec des enfants. Pourtant, tout le monde se plaint. Ah, mais les autres, ils sont égoïstes. Moi, j'ai tellement d'amour. Fermons la parenthèse. Nous avons parlé de cette croix. L'amour de Christ envers nous, envers chacun, chacune de ses créatures. Mais aussi l'amour de chaque créature envers les autres créatures. Alors on accuse toujours Dieu des mille maux de la terre. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas les guerres. Combien de fois nous n'avons pas entendu cette parole-là? Mais dites-moi, qui est-ce qui fait la guerre? Qui est-ce qui tient le fusil? S'il y avait moins de haine dans le cœur de l'homme, vous croyez qu'il y aurait autant de misère sur cette terre? Christ nous a montré le chemin. Si on ne veut pas le suivre, libre à nous. Si nous gardons, nous chrétiens, les commandements de Dieu, nous demeurons dans son amour. Christ nous rappelle aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut avoir, hein, si tu peux remettre 1 Corinthiens 13, 13. Il ne m'a pas suivi. Tu peux remettre le dernier verset, s'il te plaît. Je peux avoir la foi en Christ. Je peux avoir l'espérance en Christ. Mais si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que ma foi et qu'est-ce que mon espérance? Elle n'est rien, puisque la plus grande des choses, et la chose de base, c'est l'amour. Dans l'Église de Christ, l'amour est constructeur. Les relations sont des relations de service, d'entraide, les uns envers les autres. C'est ainsi, et c'est ainsi que tous verront que nous sommes enfants de Dieu. Une Église unie est une Église qui avance. C'est une Église qui ne se tarit pas. C'est une Église qui bâtit ses relations sur l'amour et qui s'épanouit dans la paix et dans la joie. Une Église sans amour, c'est une Église sans paix et sans joie. Ou alors, c'est que de l'apparence. Paul aux Colossiens avait écrit ceci: par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le bien parfait. Et puis souvenez-vous de cette phrase, cet encouragement: aspirez aux dons et aspirez aux dons les meilleurs, mais aspirez d'abord à l'amour. Si nous avons quelque chose à demander à Christ, c'est: donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 15, enfin verset 15-16, mais que professant la vérité dans la charité, hein, toujours dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et là, il parle de l'accroissement de l'Église, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Prions Dieu pour que l'amour, son amour, nous inonde. Inonde nos cœurs, inonde nos relations, notre façon de penser et notre façon d'agir et notre façon de regarder les autres. Un amour désintéressé, sans crainte, gratuit. Ah, pas seulement le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, hein, le jour de l'amour. Mais le jour de l'amour, c'est tous les jours. L'amour apporte la paix, la joie. L'amour élève l'autre. L'amour est source de joie, de vie, de richesse. S'il est bien partagé, il est équilibré, bienfaiteur, antidépresseur, j'ai même marqué. Eh ouais, l'amour, c'est un antidépresseur. Combien de fois on peut être maladroit dans nos relations? Combien de fois on peut formuler des critiques, formuler des jugements hâtifs pour une attitude, pour un mot? Mais ça, c'est notre attitude. Notre attitude, là, elle est dépourvue d'amour dans ce genre de choses, de façon de dire et de penser. Et puis, il y a une chose qui est formidable, c'est que je vous invite à lire Romains chapitre 8, et à partir du verset 35, vous lirez ceci. C'est une parenthèse qui a son importance. Quoi qu'il arrive, rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne, ne serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et moi, je dirais qu'il ne faut que rien ne nous sépare de l'amour qu'on a les uns pour les autres. À la fin de ce message de Dieu, de ce message d'amour, moi je vous invite vraiment, je nous exhorte à expérimenter ces relations d'amour fraternel. Si nous ne pouvons pas, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Alors demandons à Dieu d'avoir la sagesse de régler cette chose, afin que à chaque fois que mon regard va se porter sur chacun, chacune de vous. Il n'y a rien dans mon cœur qui soit attristé ni quelque chose qui me gêne. Mais que l'on soit capable de se regarder dans le blanc des yeux, dans la vérité. J'aimerais aussi que nous vous exhortions à vous saluer, à vous inviter, à mieux vous connaître, à vous téléphoner, pourquoi pas, à vous rendre des petites visites. Ne soyons pas, Christ ne nous enseigne pas à avoir des relations superficielles. Le monde a tellement de relations superficielles. Vous pouvez vous entendre bien avec votre collègue de travail, mais sachez qu'il ne reste, ce n'est qu'un collègue. Si demain, pour une raison X, vous avez besoin de lui ou pas, vous n'êtes pas sûr de pouvoir compter sur lui. Même si vous avez de bonnes relations. Mais nous, chrétiens, n'ayons pas entre nous de relations superficielles. Un bonjour, ça va. Et puis on passe à autre chose. Bonjour, ça va, c'est bien, c'est la politesse. Mais moi, quand on me répond bonjour, ça va, même si j'ai un cœur gros comme ça, ouais, ça va. Ça va. Ou on fait aller. Alors soyons attentifs. Quand on pose cette question, ça va, pas simplement s'attendre à avoir un oui ou un non, ça veut rien dire. Vous voyez ? C'est des choses toutes simples, toutes bêtes, hein ? Toutes bêtes. Apprenons à partager. Apprenons à partager. Peut-être les choses qui nous blessent, que l'on ne comprend pas. Tout ça pour s'édifier. J'aimerais vous laisser deux versets avant de terminer sur ce thème de l'amour fraternel. On l'a sûrement déjà cité, sûrement déjà dit ensemble, mais là vous aurez les références. Jean 13, chapitre 13, verset 34. Jésus dit : « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et puis 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Exerce-toi à la piété, pas à la pitié, à la piété. Bon, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, tandis que la charité, tandis que la compassion est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Souvenons-nous, quoi que nous ayons, quoi que nous puissions nous sentir fort, utile, agréable à Dieu, c'est une bonne chose. Je peux prier pour que ma foi soit grande, pour que mon espérance soit encore plus grande, mais je crois qu'il faut d'abord prier pour que nous ayons un amour saint et véritable qui nous vienne de Christ, qui soit pur ou qui soit purifié, qui soit sans retenue envers ceux qui nous entourent. Voilà. Puis bannissons le sentiment de pitié qu'on pourrait avoir. On peut ne pas l'appeler pitié, mais il n'y a que nous qui puissions savoir au fond de notre cœur ce sentiment, comment nous l'exprimons. Voilà, j'espère que ce temps que nous avons passé ensemble sur l'amour fraternel, nous puissions assimiler ces paroles, être encouragés, aller encore plus loin, aller au-delà. hein, et vraiment nous laisser remplir de l'amour du Christ pour que nous-mêmes nous puissions inonder les autres avec cela. Voilà, un bien-aimé du Seigneur, que Dieu bénisse sa parole et qu'elle soit bénie, qu'elle soit pour nous source de richesse, source de réflexion, et soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.